Bonjour et bienvenue sur FM Plus dans notre magazine hebdomadaire Rencontre. André Bourguet au micro. De la rencontre œcuménique régionale qui s'est tenue récemment à Montpellier sur le thème « Croître en communion », nous avons déjà diffusé l'intervention du père Fameret. Nous prenons maintenant la contribution du professeur Christophe Singer, chargé de la chaire de théologie pratique à la faculté de théologie protestante ici à Montpellier. Il donne à son tour son sentiment sur le document « Église vers une vision commune », parfois en répondant au père Fameret. Nous l'écoutons.
Alors d'abord, je me sens autorisé à vous souhaiter la bienvenue dans ces murs, puisque je crois que personne ne l'a fait depuis le début, et comme ce sont les miens quotidiennement, voilà, on est très heureux, même si effectivement, alors il y a des problèmes de salles, de réservation. C'est des bâtiments qui sont surutilisés. Parfois, même pour nos propres cours, on a des difficultés à trouver des salles. Donc, voilà. Vous m'avez fourni une petite accroche, une introduction à mon introduction sous la forme de cette hésitation de vocabulaire que vous avez soulignée à propos de « est-ce qu'on va commémorer ou célébrer la réforme ?» Alors, je ne vais naturellement pas répondre à cette question, mais simplement pour vous montrer finalement que dans l'œcuménisme, il me semble qu'avant tout, c'est une affaire de langage. Ce qui n'est pas une mince affaire, puisque le langage, c'est ce qui nous fait exister en tant qu'être humain. Donc, c'est une affaire humaine par excellence. Les psychanalystes disent qu'à partir du moment où il y a du langage, il y a du malentendu. À partir du moment où on parle, on se mésentend. Et vous regardez les premières pages de la Bible, ça commence comme ça. Est-ce qu'on a bien entendu, au fond ? Voilà. Alors, ce que je voudrais faire, c'est partir d'un mot qui est assez fréquent dans le champ de la théologie pratique, qui est le mien, qui est le mot de terrain. Un mot qu'on entend beaucoup en théologie pratique, et surtout sur un mot, disons, de la polémique. Pourquoi ? Parce qu'on oppose souvent le terrain à la théologie, on pourrait dire ça comme ça. Comme si ce qui se passe dans les facs de théologie, dans les rencontres de spécialistes, dans les groupes œcuméniques à un certain niveau, etc., ne relevait pas du terrain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la conversation, quand on parle du terrain, ça veut dire que c'est toujours ailleurs que là où on est, le terrain. Hein ? On n'est jamais sur le terrain quand on en parle, parce que quand on est sur le terrain, on n'a pas le temps d'en parler en général. Au fond, quand on parle du terrain, ça veut dire qu'on a l'impression de ne pas s'y trouver. Ça s'exprime au vu de la théologie comme ça. Les théologiens feraient bien de temps en temps de descendre de leur petit nuage et d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Et donc les théologiens pratiques dont je suis sont régulièrement sollicités à aller sur le terrain, parce que naturellement les bibliothèques, ce n'est pas le terrain. Et quand il est question de l'œcuménisme, ça prend une forme tout à fait précise, sous la forme de l'opposition entre, je dirais, disons, l'œcuménisme de base, celui qui se passe sur le dit terrain, et puis l'œcuménisme des hautes sphères, et en général pour opposer l'œcuménisme de base qui, selon les lieux, mais globalement se porte plutôt bien, parce qu'on fait des célébrations communes, parce qu'on a de temps en temps l'occasion de vivre de magnifiques et d'audacieuses transgressions des règles ecclésiales, dans la fraternité de l'instant qui nous réunit sur le terrain, justement. Et puis, vous avez l'œcuménisme des spécialistes, qui, selon les gens qui n'y sont pas, apparemment, serait marqué par la lourdeur, le formalisme, des discussions à n'en plus finir, plus trop sur le sexe des anges, mais sur... finalement, qu'est-ce qu'on entend par tel mot ? Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce mot ? Etc., etc. Au fond, on a l'impression que ça n'avance pas. Alors, en lisant ce texte, donc qui est l'objet de notre journée, je me suis dit, ben voilà, c'est une bonne occasion pour dire, pour balayer un petit peu ce genre d'opposition. Parce qu'en le lisant, je me suis dit, ben, au fond, ça avance. Ça avance surtout, certainement d'une toute autre manière que, entre guillemets, sur le terrain. Pas forcément à un rythme plus lent, contrairement à ce qu'on croit, mais parce qu'il faut labourer en profondeur quand il s'agit de langage, et non seulement, disons, de gestes symboliques. tant qu'on est dans les gestes symboliques, je parle des célébrations communes, etc., au fond, on peut se contenter, alors c'est péjoratif quand je dis ça, on peut se réjouir de manière tout à fait positive, et tant mieux, de ce que l'on vit. Mais quand il s'agit d'expliciter ce que l'on peut vivre, et de l'expliciter en ayant conscience que nous avons des identités ecclésiales, confessionnelles, qui sont le résultat de l'histoire, d'histoires parfois difficiles, alors là, c'est tout à fait normal que ça devienne un tout petit peu moins évident et un tout petit peu moins instinctif. Voilà. Sauf que j'imagine, enfin j'en ai entendu un petit écho hier soir au restaurant à propos du groupe des dons, que les théologiens qui participent à des rencontres de spécialistes vivent aussi ces moments de fraternité. Donc c'est aussi un terrain, comme si vous voulez. Et ce texte m'a donné l'occasion finalement de reparcourir ce terrain-là, après l'avoir parcouru il y a un an en l'étudiant pour le compte de l'Église protestante unie de France, dans le cadre d'un groupe théologique qui s'occupe de, disons, c'est une commission technique du Conseil national pour réagir sur les textes œcuméniques en particulier, ou les textes de dialogue interconfessionnel qui nous sont soumis. Et donc je l'avais lu il y a plus d'un an, un an et demi, et puis je l'ai relu, et je me suis dit, finalement, là, il y a quelque chose de tout à fait particulier, il y a effectivement une avancée. Mais je rajoute tout de suite que l'avancée, elle ne se situe pas forcément là où le texte la situe, là où le texte la désigne lui-même d'une manière explicite. Le témoignage de l'avancée œcuménique dans ce texte, je le vois ailleurs que dans ce que le texte lui-même désigne comme une avancée, ou a tendance à le désigner comme une avancée. Ce que je voudrais pointer en le lisant, alors je ne vais pas le lire naturellement, mais c'est que en fait il se dit quelque chose dans ce texte qui est de l'ordre à la fois du désir œcuménique, je vais l'appeler comme ça, hein, et aussi de la résistance à ce désir œcuménique. Mais la résistance et le désir ne sont pas forcément là où on croit dans les mots du texte, en tout cas dans la lecture que j'en ai. Ça veut dire, premièrement, que je fais abstraction des intentions présumées des auteurs de ce texte. Je n'en sais rien. En fait, c'est un peu comme pour l'exégèse littéraire quand on fait l'étude de la Bible. Au fond, je ne sais pas ce que Paul avait dans la tête quand il écrivait. Je ne sais pas ce que Pierre ou Luc avaient dans la tête quand ils écrivaient. Ce que j'ai devant moi, ce sont des mots. Et voilà, je vais essayer de travailler, de vous dire finalement qu'est-ce que ces mots me disent et comment, au fond, comment ils prennent relief pour moi. Donc c'est une réaction protestante, c'est pas la réaction protestante officielle, même si je me sens assez en accord avec la réaction officielle de l'Église protestante unie de France qu'elle a envoyée à Foi et Constitution suite à ce texte. Alors pour le dire en résumé, j'y reviendrai, vous allez le découvrir, mais comme ça, s'il y a des gens qui s'en vont tout de suite, ils auront tout de suite ils auront tout de suite la conclusion. Au fond, je crois que le but œcuménique dans ce texte est atteint précisément et paradoxalement là où les auteurs désignent quelque chose qui est de l'ordre de l'échec. Et que l'effort œcuménique, comme il est désigné dans le texte, est symptôme de la principale résistance, en fond, à l'unité. Alors, je vous propose un exposé en deux parties. D'abord, j'essaie de voir, au final, qu'est-ce qui se dit des présupposés théologiques qui sont là-dedans, explicites ou implicites, qui sont dans le texte, de manière un peu globale. Parce que c'est quand même un texte, les quatre chapitres se tiennent, donc c'était assez difficile de concentrer cette partie-là, en tout cas, sur le chapitre 3, donc je ferai référence à l'ensemble. Et puis, dans un deuxième temps, en me concentrant un peu plus sur le chapitre 3, je vais essayer d'en voir quelques aspects, pas seulement sur le plan du contenu explicite, mais sur le mode énonciatif, c'est-à-dire sur la manière dont le texte parle, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, comment se donne et comment se dit l'unité dans ce texte. Ou même la communion dans ce texte. D'abord sur les présupposés théologiques. Alors, dans un premier temps, je relève trois caractéristiques. Il y en aurait d'autres, hein, naturellement, mais il faut être court. Donc, trois caractéristiques, disons, de la théologie, de la dogmatique qui anime ce texte. Et puis ensuite, j'en ferai la critique. Donc, vous l'avez entendu ce matin, ça se situe dans le fil des travaux de foi et constitution qui ont débuté il y a presque un siècle maintenant. Et les auteurs ont pris soin de mettre l'historique de ce texte, pour bien qu'on voit d'où il vient. Ça ne sort pas comme ça de l'inspiration soudaine et subite, mais c'est le résultat provisoire, et dit explicitement provisoire, de toute une histoire, d'un cheminement, et donc d'une avancée. Quand on chemine dans le langage, forcément on avance. Même si on a là parfois l'impression de tourner en rond. Et donc, comme c'est le résultat d'un cheminement, il rend compte aussi, ou il est sous-tendu par les orientations théologiques qui sont celles de foi et constitution depuis un certain nombre d'années, et aussi celles qui sous-tendent le fameux BEM dont on a suffisamment parlé ce matin. Alors, je cite juste trois points principaux pour notre sujet. Alors, d'abord, j'étais frappé de ce que moi j'ai appelé, alors c'est peut-être pas la bonne expression, alors je suis pas dogmaticien, mais je vais expliquer les mots que j'utilise. Ce que j'appelle une eschatologie de la continuité immanente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? C'est pour résumer en trois mots, comme ça, ceux qui veulent partir, ils partent et ils vont voir un dictionnaire. Hein. Alors, je vais faire le dictionnaire moi-même. D'abord, une eschatologie, pourquoi? Parce qu'il s'agit effectivement des choses dernières, c'est le discours sur les fins dernières, l'eschatologie. Il s'agit rien de moins que du royaume de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, eschatologie de la continuité. Pourquoi ? Parce que ce royaume est censé être le résultat d'une transformation du monde sous l'action de l'Esprit Saint pour rendre la terre, pas seulement la physique, hein, le monde humain et la terre aussi, à sa pureté originelle, celle de la création. Et pourquoi ? Ah, donc, eschatologie de la continuité, il y a une solution de continuité entre le royaume et le monde. Et puis, immanente, pourquoi ? Parce que cette transformation du monde, elle est décrite dans des termes tout à fait historiques, éthiques, on peut la diagnostiquer, la voir, la vérifier dans des choses qui ont lieu dans l'histoire. Je ne fais pas allusion là-dessus, mais j'ai lu d'autres textes après, donc j'ai tendance à confondre dans ma mémoire. Mais enfin, le processus justice, paix et sauvegarde de la création s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Il y a une déclaration donc du Conseil œcuménique en 2013 à Busan, de l'Assemblée hein, de 2013, qui énonce très clairement cette conception en une phrase qui résume assez bien quelque chose qui est quand même manifestement très présent dans notre texte à nous. Le thème... où on voit que le thème du dessein de Dieu est lié à l'exhortation, à l'engagement éthique et au témoignage des Églises. Et je cite cette phrase, qui n'est pas dans notre texte, hein, mais dans le texte de 2013. « La paix juste est un cheminement », c'était une déclaration sur la voie de la paix juste, hein, de la 10e assemblée du COE. « La paix juste est un cheminement qui nous fait entrer dans le dessein de Dieu pour l'humanité et toute la création. » L'espoir, elle a ses racines dans l'identité même des Églises, l'espoir d'une transformation spirituelle et l'appel à rechercher la justice et la paix pour tous les êtres humains. Autrement dit, il y a ici un idéal éthique qui est conjugué à des représentations religieuses dans lesquelles l'Église a tout à fait pleinement son rôle. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque sur la dogmatique donc, qui anime ce texte et qui, là aussi... Ça ne date pas de ce texte, mais il en fait quelque part une synthèse. La définition de l'Église est tout à fait prise dans ce discours eschatologique. Je cite le texte. « La conception chrétienne de l'Église et de sa mission a ses racines dans la vision du grand dessein, ou économie, de Dieu pour toute la création, deux points, le royaume qui a été à la fois promis par Jésus-Christ et manifesté en lui. » C'est comme ça que commence le chapitre 1 de notre texte. Donc l'Église, qui est corps du Christ, poursuit l'œuvre du Christ de restauration du monde. Elle est donc une réalité divine, l'expression y est, eschatologique, une anticipation du royaume. Elle proclame le royaume, elle en vit et promeut les valeurs Et donc, à ce titre, elle participe à la transformation du monde en royaume de Dieu. Enfin, la troisième caractéristique, l'Église dont il est question ici, hein, dans ce que je viens de dire, c'est l'Église qui est désignée, et c'est aussi tout à fait classique, comme une sainte catholique et apostolique. Mais nos rédacteurs sont bien conscients que l'Église empirique, celle dont on peut faire l'histoire, ne correspond pas tout à fait à cette, enfin d'une manière immédiate et évidente en tout cas, à l'Église une sainte catholique et apostolique. D'où le fait que, et c'est donc le troisième point que je voulais souligner, c'est que dans ce texte, les divisions, qui sont héritage de l'histoire, les divisions apparaissent et sont désignées comme un scandale, voire un péché, en tout cas une contradiction flagrante du projet divin énoncé dans le projet, dans la prière de Jésus de Jean 17, qu'il soit un. Et donc, il apparaît comme un préalable, comme une sorte de présupposé, une évidence préalable à notre document, enfin qui est déjà inscrite dans le texte du document, qu'il s'agit donc pour les églises, en quelque sorte, de se repentir d'une manière, de se convertir de leur division et de travailler à l'unité visible de l'Église, cette unité étant un don divin, ça a été aussi souligné hein, tout à l'heure, un don divin à actualiser, je cite ce mot-là, par les efforts œcuméniques. Et j'y reviendrai en fin de parcours. Alors, c'est donc dans cette perspective théologique, donc, enfin, un discours sur le royaume de Dieu dans lequel l'Église a toute sa. Dont l'Église est un agent, finalement. La définition de l'Église, comme une réalité divine, eschatologique, anticipation du royaume, et donc, le troisième, et donc les divisions comme, finalement, un scandale à surmonter. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre essaye alors de définir un peu plus exactement qu'est-ce que c'est que cette Église. Et qu'est-ce que c'est que cette unité ou cette communion qui appartiennent à son essence, même si elle n'est pas réalisée concrètement. Et bien c'est parce que c'est l'Église du Dieu trine, engendrée par l'Évangile, nourrie par l'Esprit, qu'elle a une communion prophétique, koinonia, on l'a dit tout à l'heure, sacerdotale, royale, et qui sert le dessein de Dieu pour le monde. Alors, bien sûr, on dit à plusieurs reprises dans le texte que communion, cette communion-là, ne signifie pas uniformité. Et ça a été aussi souligné, il y a place pour une diversité légitime qui est fondée sur la diversité des cultures et des traditions. Ça aussi, c'est à souligner. Et l'unité visible des églises locales dans l'Église universelle, qui est la visée donc de foi et constitution, relève alors principalement du ministère d'épiscopé qui appartient, et je le souligne aussi, parce que c'est nouveau pour le protestant que je suis, qui appartient à la définition de l'Église. Alors, bien sûr, le texte ne nie pas que ces jalons ecclésiologiques, au fond, de fond, ces bases théologiques, puissent être, et de toute façon le sont, hein, de fait, l'objet d'interprétations diverses. D'ailleurs, si le texte est ponctué de questions et de paragraphes en italique qui disent ben « voilà la question qu'on pose aux églises auxquelles on adresse ce texte », c'est bien que c'est un texte provisoire, pas un document de travail, mais c'est un texte qui se sait provisoire, c'est-à-dire voilà où on en est actuellement et voilà les questions qui nous restent. Et voilà les questions qui nous restent parce que malgré ce discours commun, ou plutôt dans ce discours commun, nous n'avons pas tout à fait la même interprétation, en particulier celle du ministère, naturellement. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait avancer? Comment est-ce qu'on peut dépasser ces questions-là pour arriver au but qui est celui d'une unité visible, concrète, de l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est les bases théologiques. Ensuite, donc ma deuxième sous-partie de la première partie, je reprends ces trois points que j'ai énoncés tout à l'heure et je dis comment, au fond, ça résonne pour moi, théologien protestant. Alors, ce que j'ai appelé, dans des gros mots théologiques, l'eschatologie de la continuité immanente, c'est-à-dire cette... je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est effectivement une manière possible d'énoncer un discours sur le salut qui sera en même temps, d'ailleurs, et je souligne, une théologie de l'histoire. C'est une manière possible, mais ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas la mienne. Pourquoi ? Parce que, en lisant le Nouveau Testament, je n'ai pas l'impression que c'est ce discours-là qui s'en dégage de la manière la plus forte. Il me semble, au contraire, que les divers auteurs du Nouveau Testament envisagent le royaume de Dieu comme une rupture radicale de l'histoire. Pas dans l'histoire, mais une rupture radicale de l'histoire. La fin de l'histoire, au fond. Une rupture radicale qui vient d'ailleurs, d'un extérieur, de quelque chose qui n'est pas dans le monde, même pas de l'Église. Un monde radicalement nouveau qui est donné, offert, promis par Dieu lui-même, et dont l'avènement n'est pas repérable, pas diagnosticable dans l'histoire, pas même dans l'histoire de l'Église. Sauf, quand même, sous une forme de parabole, de faire signe vers. Oui, il y a des indices, des choses qui font parabole du royaume de Dieu dans l'Église. Mais ça n'est pas le royaume de Dieu en marche. Parce que le royaume de Dieu en marche, il est en marche vers le monde. Il n'est pas en marche dans le monde, pas même dans l'Église qui est dans le monde. L'Apocalypse parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Il ne parle pas d'une transformation des cieux ou de la terre. Il s'agit d'une nouvelle création, déjà donnée dans la foi, mais uniquement dans la foi, et espérée dans la parousie. Il n'y a pas de continuité entre le monde et le royaume. J'ai regardé, parce que dans ma vie d'exégète, je m'intéressais beaucoup aux écrits de Luc. Et Luc, ce serait sans doute comme ça, a priori, l'écrivain du Nouveau Testament pour lequel cette idée de transformation serait peut-être la plus acceptable. Eh bien, même pas lui, non. Je ne l'ai pas trouvé. Au fond, le royaume, chez Luc, comme chez les autres, ou la plupart des autres, enfin ceux qui en parlent en tout cas, y intervient un peu comme un cheveu sur la soupe. Comme une rupture dans le monde présent, c'est le règne de Dieu qui est là, mais qui est là d'une manière tout à fait inouïe, inaudible, j'allais dire, du monde. Le règne de Dieu est au milieu de vous, dit-il à ses adversaires pharisiens. On va le faire quand même. Dans Luc 21, au jour du jugement, comme une rupture radicale du cours de l'histoire, finalement. Alors, ça c'était ma critique à l'adresse de l'eschatologie de la continuité immanente. Quand je regarde le deuxième point, c'est-à-dire la définition de l'Église, il me semble quand même que dans ce texte, alors vous allez dire c'est un texte d'ecclésiologie, il y a quand même une hypertrophie de l'ecclésiologie qui, à mon avis, dépasse de loin ce que le Nouveau Testament en dit. Elle devient, par exemple, un agent... Alors, je cite cette réaction de l'Église protestante unie de France, ou plutôt un compte-rendu qu'on avait fait pour le Conseil national, un agent central et décisif de la destinée du monde et de l'histoire du salut. Or, en la posant comme réalité divine, même si on souligne aussi que c'est une réalité humaine, une réalité divine qui poursuit l'œuvre de Christ, de restauration de la création, anticipation du royaume, du coup, il en résulte que le texte est un peu verrouillé, parce qu'il est difficile, et ça n'apparaît pas explicitement dans le texte, de parler du péché de l'Église. Il mentionne les opinions particulières qui vont de ce sens. Il mentionne le péché des chrétiens, bien sûr, des chrétiens, des individus, mais pas celui de l'Église. En tout cas, ça n'entre pas dans la logique du texte. C'est un peu comme si l'Église était posée dans une espèce de préexistence extramondaine de toute éternité dans le dessein de Dieu. J'aurais plutôt, à lire le Nouveau Testament, tendance à la considérer comme un résultat des expériences individuelles de la rencontre du Christ dans la foi. Autrement dit, alors ça va peut-être contredire, je crois que ça contredit une phrase texto, une phrase du texte, c'est bien l'addition des expériences individuelles qui font l'Église. Bien sûr, elle n'est pas que cela, elle n'est pas qu'une addition arithmétique, dans le sens que ce n'est pas la juxtaposition d'expériences individuelles. Elle est aussi, elle est de ce fait même là, puisque l'expérience de la foi, c'est une expérience de relation qui influe sur les relations. Du coup, l'Église devient un corps vivant. Mais de là à lui accorder le statut quasi divin que lui accorde le texte, je ne franchis pas ce pas. Et puis, ma troisième critique, celle de l'enjeu, disons, de la recherche de l'unité. Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à redire sur le fait que la recherche de l'unité, puisque l'Église est lourde d'un tel poids, finalement, théologique, du coup, la recherche de l'unité visible devient un enjeu ultime de son être, de sa vie. Et donc, effectivement, on comprend que travailler à l'unité visible de l'Église relève de la mission même de l'Église, de la même manière que la proclamation du règne de Dieu et la vie évangélique, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Pourquoi ? Mais parce que travailler à l'unité visible de l'Église, c'est travailler précisément à la restauration du royaume de Dieu. Pour le dire en un mot, il me manque, en tant que théologien protestant, l'abîme qui sépare le royaume de Dieu de l'Église. Et ça veut dire tout à fait concrètement que le projet de foi et constitution, tel qu'il l'envisage depuis un certain nombre de décennies, serait donc une espèce de passage obligé de la destinée de l'Église. Ça, j'en doute. Pourquoi ? Parce que cette conception fait l'impasse sur trois distinctions qui me semblent théologiques, alors qui me semblent fondamentales, et que je vais énumérer maintenant. Avant de les énumérer, je voudrais juste préciser que ce n'est pas trois distinctions qui se superposent, parce que, en fait, c'est chaque fois un couple de contraires, enfin de choses opposées, mais c'est pas, il ne faut pas les mettre dans un tableau à deux colonnes, voilà, ça, 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 et ça, et ça, et ça. En fait, c'est trois manières de formuler des distinctions qui ont des perspectives différentes, vous voyez. Un peu comme quand on regarde, nos deux yeux regardent avec des angles différents pour voir en relief. De même, le discours théologique, et certains le reconnaîtront d'où il vient aussi, hein, ses racines historiques et tout ça, vous verrez que au fond, ce n'est pas superposable. Parce que si on superpose, on fait un contresens. Il y aura peut-être des questions là-dessus après, mais ce sera pour la table ronde, si vous voulez.
Radio FM+, réseau associatif régional diffusant à partir de Montpellier et Nîmes. Dans le cadre d'une rencontre régionale, le professeur Christophe Singer donne son point de vue sur le document œcuménique « L'Église vers une vision commune ». Il vient de faire trois mises au point sur la pertinence de la recherche de l'unité. Il les reprend maintenant à partir de trois distinctions.
La première distinction, alors je les énumère dans l'ordre dans lequel je vais les prendre maintenant. La première distinction, c'est la distinction qui me paraît essentielle entre l'Église visible et l'Église invisible. La deuxième, c'est la distinction des deux règnes. Ceux qui savent de quoi il s'agit, mais après je vais l'expliquer. Et la troisième, c'est la distinction entre la loi et l'Évangile. Alors, je les mentionne parce qu'elles me semblent quasiment absentes, ou quasiment totalement absentes du texte, alors que pour moi, elles sont au fondement même du discours théologique. La distinction entre l'Église visible et l'Église invisible est une des distinctions qui est, j'allais dire, consubstantielle à la réforme protestante, j'allais dire aux réformes protestantes, au pluriel, qui ont créé des églises et qui n'ont pas voulu faire une église, justement. Enfin, certains auraient sans doute bien aimé, d'ailleurs. Mais de fait, ça ne s'est pas fait. Et ça a une signification théologique. Pourquoi? Parce que l'Église, corps du Christ, ne se confond absolument pas avec une institution ecclésiale, quelle qu'elle soit. Et j'emploie le mot « institution » au sens le plus large possible. Il s'agit des institutions, des églises telles qu'elles sont reconnues ou telles qu'elles se reconnaissent elles-mêmes, qu'elles peuvent se désigner elles-mêmes. Mais il s'agit aussi des mouvements ecclésiaux, des structures ecclésiales, caritatives, etc., etc. Non, l'Église, ça n'est jamais une institution. L'Église corps du Christ n'est pas une institution. L'Église corps du Christ ne se confond pas non plus avec la réunion des institutions ou leur addition, ni même avec leur dialogue. Alors ça, je vais nuancer tout à l'heure, enfin, je ne vais pas trop loin. Enfin, au fond, l'Église corps du Christ, une sainte catholique et apostolique, c'est quoi? C'est l'objet de la foi. Je crois l'Église une sainte catholique et apostolique. Elle n'est que l'objet de la foi, ce qui n'est pas rien, ce qui est tout, effectivement, pour le chrétien que je suis. Les structures, les institutions ecclésiales ne sont jamais objet de foi. L'Église, corps du Christ, elle n'est que objet de foi, elle n'existe que par la parole qui la désigne et qui la suscite. Je cite une phrase de Denis Muller, qui était dogmaticien, il me semble, ou éthicien, je ne sais plus, à Genève. « L'Église invisible n'est en fait que la représentation par laquelle, sous les conditions de l'Église visible, donc une articulation, j'y reviendrai, et dans le régime de la foi, nous parvenons à saisir et à voir le mystère de l'union ultime de tous avec Dieu. » L'Église visible, l'expression, au fond, c'est une représentation langagière de l'Église en laquelle je crois, et qui est le corps du Christ. Alors, distinction ne veut pas dire opposition entre l'Église visible et invisible. C'est pas, et là, il faut bien faire la différence. On ne dit pas que les églises visibles, elles sont méchantes, et l'Église invisible, c'est la bonne, que les unes sont fausses et les autres est vraies. Ce n'est pas sur ce plan-là que ça se joue. Vous voyez? C'est sur le plan de qu'est-ce qui fait la foi, je veux dire, qu'est-ce qui fait les œuvres. J'y reviendrai tout à l'heure. Les deux sont articulés, bien sûr. Comment sont-elles articulées? Et là, j'emploie ma deuxième distinction, les deux règnes. Alors, c'est une doctrine luthérienne qui a fait, à certains moments, qui a fait scandale, parce qu'effectivement, elle a été dévoyée dans l'histoire d'une manière, je veux dire, avec effectivement des contresens terribles qui en ont donné des conséquences terribles aussi. Alors, à mon sens, il ne faut pas cantonner cette doctrine des deux règnes, pour ceux qui savent ce que c'est, à la question des rapports entre Église et État, entre le règne spirituel sous la forme des églises et le règne temporel qui serait celui des États. Non. La doctrine des deux règnes concerne l'existence elle-même, l'existence humaine dans tous ses aspects, individuel, social, institutionnel, y compris les institutions ecclésiales. En d'autres termes, l'Église, et je prends le bloc, moi un bloc, relève à la fois des deux règnes en tant qu'institution. Alors là, je schématise et j'ai tendance à se superposer, mais vous verrez que c'est pas tout à fait superposable. En tant qu'institution, on pourrait dire, mais il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même, elle appartient au règne temporel. En gros, au règne de l'histoire, avec ses ambiguïtés, sa précarité, sa pluralité. Et il lui appartient effectivement, en tant qu'institution, d'habiter ce règne-là en faisant des choix, toujours susceptibles d'être contestés, en s'organisant de manières diverses, qui sont toujours susceptibles d'être réformées. Et dans ce domaine-là, elle ne peut pas s'autoriser d'une quelconque mission de transformation du monde en royaume de Dieu. Parce que chaque fois que des institutions humaines se sont mises en tête de construire le royaume de Dieu, ou d'équivalent dans d'autres vocabulaires, il en est résulté des catastrophes. Parce que qu'elle le veuille ou non, l'Église aussi, en tant qu'institution, est prise dans des enjeux de pouvoir, dans les ambiguïtés humaines, dans la nécessité de faire appel à la loi qui, comme chacun sait, est aveugle. La loi, parce qu'il faut bien organiser les choses. Puisque je suis théologien pratique, j'ai toujours des exemples pratiques qui me viennent à l'esprit. Quand il s'agit de définir un budget pour l'Église, alors chez nous ça se passe en synode, c'est très compliqué et tout ça, le trésorier il a raisonné sur des espèces sonnantes et trébuchantes, mais chez les catholiques c'est la même chose, j'imagine. Et là il n'y a pas de considération de royaume de Dieu qui intervient, ou très peu. Il y a des considérations financières, budgétaires. Et il faut distinguer. Et là, les finances ou leurs mathématiques qui ne sont pas forcément celles du royaume des cieux. Si on commençait à gérer l'Église comme le gérant infidèle dans la parabole de Luc XVI, il y aurait quelques problèmes, je pense. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y ait pas de merveilleuses paraboles qui surgissent de la vie de l'Église. J'allais dire, c'est contre l'institution. C'est malgré la bonne marche de l'institution. Mais parfois même, heureusement d'ailleurs, puisque les chrétiens, les institutionnels sont aussi chrétiens, j'espère, en tout cas pour certains d'entre eux, ils mettent aussi un peu d'évangile, enfin un peu de règne spirituel dans le temporel, et voilà, il y a des collisions, et non pas des collusions, naturellement. Dans cette tâche institutionnelle, la foi, ce que je veux dire, c'est que la foi a aussi un rôle à jouer. Elle peut orienter des choix. Simplement, la foi n'est pas opposable à des tiers, elle n'est pas opposable au monde pour justifier les choix de l'Église. Je ne peux pas dire... Dieu a dit que c'est comme ça qu'il faut faire et donc le monde doit faire comme ça avant de rendre le monde chrétien, disait Luther, cherche à le peupler de chrétiens. Vous voyez ? Mais tu ne peux pas attendre du monde qu'il agisse comme le royaume de Dieu. C'est pas possible. Ça c'est l'Église en tant qu'institution. En tant qu'événement, l'Église relève du règne spirituel, c'est-à-dire celui du don de la parole de Dieu, qui n'est recevable que dans la foi. La parole qui condamne et qui relève. La parole qui fait mourir et qui ressuscite. Qui engendre des enfants de Dieu et par conséquent, qui engendre l'Église sainte, une catholique et apostolique. Et c'est pour cela que la foi, cette Église-là, vit de la foi, par la foi, pour la foi seulement. Et c'est quoi cette foi ? Mais c'est la foi des gens qui y sont. Et qui sont les gens qui y sont ? Ce sont des pécheurs. Il n'est pas de plus grande pécheresse que l'Église chrétienne, dit Luther dans une prédication en 1531. Il n'est pas de plus grande pécheresse que l'Église chrétienne. Et remarquez bien qu'il ne dit pas l'Église romaine. L'Église chrétienne, c'est-à-dire il parle de celle dans l'Église sainte, une catholique et apostolique. Pourquoi ? Parce que c'est bien là où elle est une sainte catholique et apostolique, qu'elle vit uniquement de la grâce de Dieu et qu'elle se sait pécheresse et acceptée. L'épouse qui est justifiée, c'est le joyeux échange de Luther au niveau collectif, comme il est au niveau individuel d'ailleurs. Cette Église ne vit que par la foi. Pourquoi ? Parce que par définition, ce que n'accepte aucune institution, la foi est renoncement à toute maîtrise sur ce qui advient. Elle est remise de son destin au dessein de celui qui crée la foi, qui engendre la foi. La foi, ça consiste à prendre sa croix, c'est-à-dire à assumer l'ambiguïté de ma situation, la précarité de mon institution, la pluralité de mes institutions, des institutions ecclésiales. C'est-à-dire tout simplement le caractère éclaté de l'existence humaine. Pourquoi ? Parce que l'identité humaine ne se situe pas dans ce caractère éclaté, et c'est là la foi, mais elle est cachée avec Christ en Dieu, comme dit Paul. Voilà. L'identité de l'Église comme celle du croyant. Ça veut dire que le royaume de Dieu ne peut pas être le projet d'une institution ecclésiale. Il est l'objet de la foi. Le règne de Dieu présent et de l'espérance, c'est-à-dire le règne de Dieu à venir. C'est dans ce sens, et dans ce sens minimal, vous voyez, que je peux admettre cette expression selon laquelle l'Église serait anticipation du royaume. Oui, par petites touches, par paraboles, j'allais dire malgré elle. Pas plus. Et la troisième distinction, ça concerne la loi et l'Évangile. Ça consiste, alors, je vais passer un peu vite sur l'herméneutique biblique qui est difficile à définir dans ce texte. En fait, au fond, la loi et l'Évangile, la distinction entre la loi et l'Évangile, ça constitue la clé d'interprétation de la Bible, mais aussi de la vie, de l'existence, et du coup la clé de tout le discours théologique. Je passe sur l'interprétation de la Bible parce que je n'aurai pas le temps sinon. Simplement, là où je vois, là où ça me semble important quand même, c'est que là où elle me semble absente, cette distinction entre la loi et l'Évangile, c'est dans la confusion, ce que moi je prends comme une confusion, entre l'unité comme don et l'unité comme tâche. Dans des phrases comme « Prier que la volonté du Seigneur soit faite exige nécessairement que l'on s'efforce de tout cœur de se conformer à sa volonté, que l'unité se fasse, et au don qu'il nous fait de l'unité. » Je ne sais pas ce que ça veut dire « se conformer à un don ». Je ne sais pas ce que ça veut dire actualiser un don, comme c'est écrit un peu ailleurs. Cheminer vers la pleine réalisation du don divin. Parce que si c'est un don, alors c'est un don radical. Un don, je ne peux que le recevoir. Il ne peut que advenir quand je renonce à me le procurer. Le don divin n'exige rien, sinon il n'est pas un don. C'est comme si dans le texte, il y avait une espèce de transfert de compétences, en fait, du Dieu qui donne à l'Église qui construit l'unité. Qu'est-ce que c'est que la loi? Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? La loi place mon existence sous le jugement de Dieu. Elle me signifie mon échec à être ce que Dieu demande, voudrait que je sois. Mais ce n'est pas simplement un échec moral, éthique. Il ne s'agit pas simplement de se repentir parce que nous sommes méchants et que nous n'arrivons pas à communier ensemble. D'ailleurs, c'est assez paradoxal d'aller ensemble se repentir du fait que nous ne puissions pas nous communier ensemble. Vous voyez ? Ça m'a toujours paru bizarre dans les célébrations œcuméniques, cette repentance-là. Parce que si on est ensemble en train de se repentir, c'est bien là qu'est la communion, vous voyez ? C'est bien là qu'on est là, prêt pour accepter le don de Dieu qui vient. La loi place mon existence sous le jugement, elle place mon existence dans ses ambiguïtés et dans ma prétention à la construire aussi. À construire mon existence, au fond, elle me dit « Stop, fini, ne construis pas ta tour de Babel. » L'Évangile, c'est précisément la parole qui, une fois que la loi m'a dit où j'en suis, c'est-à-dire pas grand-chose, il me place devant la croix et me dit « Tu vois, dans ce pas grand-chose, eh bien Dieu est avec toi, puisque Dieu, c'est le Christ crucifié, qui a été mis au nombre des malfaiteurs, qui a été mis au nombre de ceux qui sont jugés par la loi, et non pas au-dessus, en train de juger. Pour paraphraser Luther, tu n'as rien en toi qui ne soit ta perte, dit la loi, mais regarde à Christ crucifié, dit l'Évangile, parce qu'en lui, tu as tout, y compris le salut, ta justice, ta joie, ta paix et tout le reste. » Alors, ce n'est pas une histoire que je raconte, ce n'est pas une biographie, même si ça se dit dans les biographies individuelles, comme dans la biographie des églises, de l'histoire de l'Église, ça peut se dire à des moments. Mais il ne faut pas absolutiser ces moments biographiques, parce qu'elles peuvent toujours être le sujet d'interprétation. En fait, c'est une structure existentielle, tout simplement, la loi et l'Évangile. Luther disait que le théologien, c'est celui qui s'est distingué, et en particulier celui qui s'est distingué entre les deux. C'est pour ça qu'au fond, la théologie, c'est toujours la proclamation de l'Évangile qui vient dévoiler qu'est-ce que c'est que la loi et que je vis sous la loi. Alors, vous allez me dire, est-ce que ce texte... Du coup, ce texte n'est sans doute pas parole d'Évangile. Hein ? Effectivement, moi, quand je le lis, je l'entends plutôt qui me dit une loi. Et je ne pense pas que ce soit son but d'être parole d'Évangile. Il dit un projet, Et donc, il fait loi pour moi. Mais c'est précisément en cela, et dans ces interstices, et dans ces questionnements, qu'il est aussi évangile. Et ça, j'aimerais vous le dire à partir du chapitre 3, dans les 4 minutes qui me restent. Au fond, ce texte, pour moi, et c'est ça qui m'émeut en le lisant, c'est le témoignage d'une ambition frustrée. Et c'est précisément parce qu'elle est frustrée que ce texte fait évangile pour moi. J'allais dire, pour être un peu catégorique, le témoignage d'un projet en échec. Mais c'est précisément dans l'échec que résonne l'évangile. Et ça se dit dans le texte d'une manière tout à fait spécial. Je ne sais pas si les rédacteurs ont voulu le dire comme ça, mais ce n'est pas mon problème au fond. Je n'ai devant moi que le texte, je n'ai pas ses rédacteurs. Je passe sur le contenu du texte parce que finalement, vous l'avez entendu d'une manière très très, je veux dire, limpide ce matin. Je voudrais juste dire quelques mots sur la manière dont il s'exprime. Par-delà, le projet qui me semble quand même, malgré la place qu'il en donne aux diversités légitimes, moi je préférerais des diversités illégitimes. Parce que, vous voyez, c'est un peu comme pour l'objection de conscience il y a quelques années, mais j'étais objecteur de conscience pour le service militaire, vous savez. Et alors, tout naïvement, je disais, c'est comme ça une objection. Il faut que au ministère, je vais écrire ma lettre au ministère de la Défense et je vais essayer de plaider ma cause. Mal m'en a pris. J'ai écrit une lettre de 3 pages pour dire, au fond, pourquoi ma conscience était opposée à l'usage des armes. Et la lettre m'est revenue en disant, dans un langage, excusez-moi ceux qui sont fonctionnaires, c'est la blague facile dans un langage de fonctionnaire, qui me disait, on n'y comprend rien à ce que vous écrivez, écrivez-nous des choses claires. Alors, et alors je me suis dit, mais au fond, j'avais l'impression d'être clair. Au fond, c'est nul et non avenu votre lettre, quoi. Alors je me suis renseigné auprès de ceux qui avaient fait pareil, ils m'ont dit, mais non, ne t'inquiète pas, l'objection de conscience est inscrite dans la loi. T'as qu'à dire, je suis opposé par conscience à l'usage des armes, et donc je veux être mis au bénéfice de la loi telle et telle sur l'objection de conscience. Point final, une phrase, 2 lignes dans une page, pas plus. C'est ce que j'ai fait, et ça a marché. Et j'étais frustré. Vous voyez bien pourquoi j'étais frustré? Parce que je pensais livrer un combat, mais au fond, il n'y avait plus lieu de livrer de combat. C'était admis. J'allais dire, l'objection de conscience était bétonnée. Alors, on pourrait dire que c'est un progrès. En temps de paix, c'est un progrès. En temps de guerre, ça, j'en suis moins sûr. Puisque, vous voyez bien, bon. Voilà. Eh bien, un peu pareil dans ce texte. Au fond, on accorde place aux diversités légitimes, mais il faut quand même, comment dire, une supervision pour essayer quand même de trouver les critères de la légitimité de cette diversité. Autrement dit, c'est comme ça que je le reçois, sur les marges, pour des questions culturelles et de tradition historique, on peut être dans la diversité. Mais surtout pas sur le fond. Surtout pas sur le cœur. Or moi, en tant que protestant, je dis, on peut être unis dans la communion en Jésus-Christ, alors même qu'on est en conflit sur le fond et sur le cœur de l'Évangile. Parce que le conflit, je le vois déjà dans le Nouveau Testament. Et pas sur les marges. Pas sur les petits détails, les adiaphoras, comme on dit, mais sur ce que c'est que l'Évangile lui-même. Lisez le Nouveau Testament, vous verrez que on peut pas produire un discours unique. Le discours de la foi, qui soit dit dans le passant, est toujours compris dans le texte comme une doctrine, enfin un corps de doctrine. Mais quand même, il y a heureusement des questions dans le texte, et parfois des aveux de « ben là, on n'est pas d'accord ». Et c'est là que pour moi, ce texte fait évangile. Pourquoi ? Comment dire ? Parce que l'unité ne se trouve pas dans l'achèvement. Vous entendez le mot, comment il résonne ? De deux manières différentes. L'achèvement. Achever. Ça a 2 sens en français. Hein. Dans l'achèvement d'une formulation prédéfinie. L'unité se trouve dans les efforts pour y atteindre, alors même que ces efforts se savent inutiles et vains. L'unité se trouve précisément là où j'ai des questions et pas là où j'ai des réponses. L'unité se trouve dans la constatation tranquille, ensemble, des divergences qui, soi-disant, nous séparent. Mais l'unité, et alors excusez-moi, c'est une théologie dialectique, hein, l'unité ne se vit humainement que dans la séparation. Quand on est un couple, vous savez, la liturgie de mariage dit « maintenant vous n'êtes plus deux, vous êtes un », et d'autres collègues et moi, on rajoute souvent « et vous êtes quand même deux ». Il suffit d'être marié depuis un certain nombre d'années pour constater que c'est vrai, humainement parlant. Bien sûr, on est deux. Peut-être que dans le royaume des cieux, on sera un, ou on sera tous des anges, ou je ne sais pas quoi, mais enfin, ça c'est autre chose, hein, vous voyez ? Eh bien, l'unité du couple ecclésial, alors ce n'est pas seulement un couple, naturellement, du ménage à 15 à 200 si on veut, c'est précisément de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir peut-être se chamailler ensemble, comme on aime bien les protestants, voilà, mais sachant que l'autre, parce qu'il se réclame du nom de Christ, il est mon frère à cause de ce nom-là. Je veux dire, un nom, ce n'est pas grand-chose, vous voyez, c'est tout. C'est ce qui fait notre unicité, justement. Quand on est dans une même famille, on est rassemblé par un nom. Alors, bien sûr, maintenant, il y a l'ADN et le groupe sanguin, mais bon, toute image a ses limites. On est rassemblé par un nom, N-O-M. Et parce qu'on se sait rassemblé par ce nom, N-O-M, on peut se dire non en toute communion. Oui, non, N-O-N, en toute communion. Si l'Église est la compagnie des pécheurs justiciers, alors c'est précisément là où elle se sait pécheresse, où elle se sait dans la précarité, dans le manque, j'allais dire dans l'illusion. Mais quand on se sait dans l'illusion, c'est que quelque part l'illusion a déjà commencé à s'effriter. Et bien c'est dans cet effritement-là, finalement, quand les masques tombent, finalement. Quand on essaye de voir, finalement, ce que portent nos discours, et parfois le double langage qu'il y a dans ces discours. C'est pas grave. Puisque le langage est le lieu de malentendu. Mais c'est bien dans le malentendu que le Christ est descendu sur la croix. La croix, c'est le grand malentendu, finalement. Et bien c'est là que Dieu se révèle dans toute sa plénitude et sa puissance et sa gloire. Alors vous voyez, la théologie de la croix, comme on dit chez les luthériens, elle me semble absente de l'intention explicite du texte. Et pourtant le texte n'y échappe pas. Dans la manière dont il s'énonce, dans les mots qu'il emploie, dans les points d'interrogation, j'allais dire les points de suspension. Vive la suspension. Les Parpaillot, dans le sud, qui s'intéressent un peu à l'histoire de France, de l'Église réformée en France, parlent pour la période du désert, parfois ils utilisent l'expression de l'Église sous la croix. Alors ça désigne un lieu historique tout à fait précis. Mais je voudrais extrapoler de ça et dire au fond, l'Église, une catholique, sainte, apostolique et tout ce que vous voulez, est par définition sous la croix. Les institutions, ça varie. Elles peuvent être triomphantes selon les périodes et les lieux. Elles peuvent être en pleine forme. Mais l'Église, corps du Christ, est toujours sous la croix, parce que c'est le Christ crucifié. C'est le corps du Christ crucifié. Eh bien, je crois que l'unité visible de l'Église ne peut être que sous la croix, et pas seulement la croix de l'adversité extérieure, des opposants, des athées et des païens, mais avant tout la croix de l'adversité intérieure, c'est-à-dire là où elle pense elle-même avoir tout faux, et bien c'est justement là que l'Église ne peut vivre que de l'Évangile. Et c'est bien là qu'elle trouve sa communion, vous voyez. Voilà.
Sur FM+, antenne de Montpellier, nous venons de suivre la deuxième étude de la rencontre œcuménique régionale. Christophe Singer, professeur à la faculté de théologie protestante de notre ville, vient de nous présenter sa façon de recevoir le document œcuménique de convergence l'Église vers une vision commune. L'unité de l'Église doit se penser en termes de mission plutôt que d'institution. L'Église confessée dépasse l'institution. Se penser aussi dans sa condition d'Église sous la croix. Dans une précédente émission, nous avons diffusé la réaction du père Fameret, dans sa sensibilité catholique, bien sûr. Au revoir et à bientôt sur FM+, dans une prochaine rencontre. Thank you.